Simone de Beauvoir par Alberto Giacometti, vers 1946, lu par Virginie Efira. Ici aussi, il sera question d'affinité et d'égalité des droits. Je regardais la page blanche. Je sentais le besoin d'écrire au bout de mes doigts et le goût des mots dans ma gorge, mais je ne savais pas qu'entreprendre. Écrivait Simone de Beauvoir dans La force des choses, la troisième partie de son autobiographie. Elle s'y remémorait un après-midi de 1948 au café Les Deux Magots avec son ami Alberto Giacometti. « Que vous avez l'air farouche, » me dit Giacometti. « C'est que je voudrais écrire et je ne sais pas quoi. Bah, »« Écrivez n'importe quoi. » À cet instant, rapporta Beauvoir, elle sut qu'elle voulait écrire sur elle-même, sur la vie de femme. Ce bref et lapidaire échange entre l'artiste et l'écrivaine allait influencer la rédaction d'un ouvrage, Le Deuxième Sexe, qui paraîtrait l'année suivante. Giacometti et Beauvoir s'étaient rencontrés avant la guerre, dans les années 30. La crinière échevelée du sculpteur, sa façon d'être solide comme un rocher et plus libre qu'un elfe, la fascinait, tout comme son esprit. Il allait droit à l'essentiel, dit-elle un jour. Il manifestait une patience infinie et une curiosité insatiable. Et d'une certaine manière, ce sont des qualités que l'on discerne dans la petite sculpture qu'Alberto réalisa vers 1946. Il va au cœur de son modèle, de ce qui aujourd'hui encore fait notre admiration, le visage de Simone. C'est très fin, parfois sévère, son chignon légendaire. À l'époque, Beauvoir avait déjà publié 3 romans. Elle était connue dans certains milieux. Mais pour la notoriété internationale, qui allait bientôt la rattraper, il lui manquait encore un essai révolutionnaire. Or, dès cette époque, son ami semble avoir vu en elle l'icône qu'elle deviendrait quelques années plus tard. Il la montra telle qu'on la voit encore de nos jours, comme une tête et non un corps, comme une philosophe brillante, mais une femme un peu sévère, faisant plus que son âge, comme quelqu'un dont la tête est posée sur un socle, qui analyse tout avec froideur depuis sa position surélevée et paraît rarement touchée. On a parfois reproché à Simone de Beauvoir d'être dépourvue de passion, d'être cérébrale, éloignée des réalités, tout en s'échauffant dans le même temps sur la franchise avec laquelle elle parlait de sexe. Comme l'écrivit François Mauriac à la revue Les Temps modernes, après l'apparition du Deuxième Sexe, « Désormais, je sais tout du vagin de votre patronne. » Une philosophe qui parlait des premières règles, de la première expérience sexuelle, du corps des femmes, c'était complètement nouveau, révolutionnaire et choquant. Dans sa vie, toutefois, Beauvoir semble avoir eu à cœur d'abandonner son image d'intellectuel discipliné, un peu revêche. Pour être vraiment prise au sérieux, une femme se devait de paraître privée de corps. Il en avait toujours été ainsi, et elle ne l'ignorait probablement pas. Depuis que Zaza, son amie d'enfance, avait payé de sa vie son désir d'une existence passionnée, elle devait savoir qu'il valait mieux pour une femme vivre en gardant ses distances, seule dans sa tête, sans avoir le cœur trop débordant. Lorsqu'on parle d'elle et de ses amours, le premier homme qui vient à l'esprit, c'est Jean-Paul Sartre. Sartre, le compagnon d'une vie. Sartre, le collègue. Sartre, ce drôle de type génial rencontré à l'université et qu'elle n'avait plus quitté. Sartre, le philosophe, avec qui elle entretient toute sa vie un compagnonnage intellectuel enrichissant, à défaut d'une passion amoureuse. Si elle n'avait connu que cela, que cette profonde amitié qui n'engage ni le corps ni l'être, sa réflexion sur l'état de femme aurait peut-être été différente. Quoi qu'il en soit, dans Le Deuxième Sexe, elle parle du fait que dans nos sociétés, la femme est définie en rapport à l'homme, comme l'autre, celle qui vient en deuxième, et qu'il est donc dangereux pour elle de s'inscrire dans cette relation parce que cela l'enferme dans un vieux rôle, et ce souvent à son insu. Les femmes de sa génération avaient la possibilité de travailler, de faire des études, de conduire, de se promener à vélo à Paris. Elles pouvaient être indépendantes et avoir des liaisons. Mais que se passait-il quand elles s'engageaient dans une relation? Une relation étroite, stable. Pouvaient-elles continuer à vivre librement? Ou les ramenait-on discrètement, de façon insidieuse, dans une position de sujétion et de sacrifice de soi? Les femmes ne devaient-elles pas, contrairement aux hommes, choisir entre l'amour et l'ambition? Elle se posa sans doute toutes ces questions pendant qu'elle écrivait Le Deuxième Sexe. Pour la première fois peut-être, elle était éperdument amoureuse d'un Américain, l'écrivain Nelson Algren. Beauvoir avait fait sa connaissance en 1947, un an après avoir posé pour Giacometti au cours d'un voyage aux États-Unis. Ce fut le coup de foudre. C'est avec lui qu'elle connut son premier orgasme, confia-t-elle à son biographe. Qui connaît Beauvoir comme la maîtresse cool et distante de Sartre n'en revient pas en lisant ses lettres à Algren. C'est une autre femme, enthousiaste, amoureuse, exubérante, susceptible. Parfois même, elle se montre kitsch, rêve qu'il eût cru d'un foyer. Elle qui a toujours vitupéré contre le mariage, voilà qu'elle veut être soudain sa wifey, sa petite femme, lui faire de bons petits plats, tout lui donner. Peut-être, ce n'est qu'une hypothèse, mais elle paraît plausible, cette relation, qui la touchait très différemment de celle qu'elle entretenait avec Sartre, lui faisait-elle pour la première fois sentir concrètement combien les rôles étaient profondément ancrés dans l'esprit. Comme il était difficile de se débarrasser de siècles de sacrifices de soi. Et avec quelle rapidité, même une femme réfléchie retombait dans des schémas qui lui étaient en réalité très étrangers. Peut-être lui faisait-elle réaliser qu'en dépit des progrès, les femmes de son époque pouvaient se trouver devant un choix douloureux. Moi ou lui. Dans les médias, il ne pouvait y avoir un nous, véritablement libre et égalitaire. On sait le choix que fit Simone de Beauvoir. Un an après avoir achevé le deuxième sexe, elle se sépara de Nelson Algren. Je ne vous ai pas donné ma vie, je vous ai donné mon cœur, lui écrivait-elle en octobre 1951. Et le 6 décembre de la même année, elle ajoutait « Ma vie amoureuse a pris fin à tout jamais. Chose très déplaisante à penser quand on conserve un cœur ardent et un corps vivace. » Heureusement, elle se trompait. Peu après, elle rencontrait Claude Lanzmann, de 17 ans son cadet, et puis continue à s'abandonner à son cœur et à son corps. Elle n'en avait pas moins raison. Les hommes, l'amour et le plaisir étaient éphémères. Sa tête, solide, en revanche, ne l'abandonnait pas. La version qu'en avait réalisée Giacometti demeura sur son bureau jusqu'à sa mort.